18h. Enfin, c'est l'heure. Vous êtes conviés dans le bureau des commissaires.
Pour célébrer la rivalité entre les Red Sox et les Yankees, Canadiens, Sénateurs, on a parlé un peu plus tôt à l'émission des grandes rivalités dans le monde du sport, évidemment. Qui dit rivalité pense immédiatement au Nordique contre les Canadiens. On a un acteur important de cette rivalité-là avec nous. Salut Alain Crête.
Salut Alain.
Comment allez-vous?
Ça va bien, toi?
Ça va très, très bien.
Alain, as-tu eu de la difficulté à changer tes allégeances et à commencer à décrire, tu sais, à être à l'isanthraque du Canadien alors que tu as été longtemps affilié au Nordique?
Ouais. Non, écoute, c'est sûr que, tu sais, les Nordiques vont toujours avoir une place importante parce que c'est là que j'ai commencé. Ça a été le début de ma carrière. Puis, tu sais, j'étais arrivé à 26 ans à décrire des matchs dans la Ligue nationale de hockey. Alors, c'est sûr que... Mais quand je suis arrivé à Montréal, tu avais beaucoup de gens de Québec qui étaient déjà à Montréal. Puis, tu en avais au sein de l'organisation du Canadien. Michel Lapointe était rendu avec le Canadien. André Savard a travaillé avec le Canadien. Martin Madden a travaillé avec le Canadien. Tu en as beaucoup là qui avaient fait le saut déjà. Puis ça, sans parler des journalistes que j'avais côtoyés à Québec à l'époque qui étaient déjà à Montréal. Tu sais, évidemment, ça a été... Tu sais, j'oublierai jamais mes années à Québec, mais ça n'a pas été si difficile que ça parce que finalement, je me retrouvais un peu dans un environnement que je connaissais là, parce que tous ces gens-là, je les avais côtoyés avant. Là. Avant, c'était pas un obstacle majeur, ben. Mais c'est sûr que les Nordiques, ça va toujours rester. T'sais, si les Nordiques revenaient, ça me ferait un petit quelque chose.
Y a-tu de quoi que c'est pas. Mais avant ça, là, avant que tu t'en viennes à Montréal, quand tu décrivais les matchs des Nordiques, tu étais sur la galerie de presse, y a-tu eu des moments où ça a brossé un peu, sur la galerie de presse?
Ah ben, Colin, ça a brossé. M'a dit, des journalistes sont offerts des claques à la gueule pendant un match canadien-nordique. Là. Ah non, ça a été. Puis le Vendredi Saint, ça a été l'aboutissement de toutes ces années, puis ces confrontations où il y avait toujours une tension, tout le temps. À l'époque, là, tu avais, par exemple, le 23 décembre, tu avais un match à Québec canadien-nordique, et le 31 décembre, tu avais un match au Forum canadien-nordique. Alors, dans le temps des fêtes, là, les gens ne parlaient que de ça. C'était, tu sais, les gens ont pris, aujourd'hui, on parle des Sénateurs d'Ottawa, puis les, mais à l'époque, là, puis tu sais, Gilbert, tu l'as vécu des deux côtés, à part de ça. Tu sais, c'était 12 mois par année, et si tu t'étais fait éliminer par le Canadien ou si le Canadien s'était fait éliminer par les Nordiques, les gars en entendaient parler tout l'été, parce que d'abord, de un, tu avais beaucoup de francophones dans chaque équipe qui vivaient 12 mois par année dans leur ville respective, et tu avais beaucoup d'anglophones qui passaient l'année à Québec ou à Montréal aussi. Ouais. Alors, eux autres aussi en entendaient parler, puis tu avais des tournées de balles molles à l'époque. Alors, partout où les deux clubs allaient, il se faisait parler de ça. C'était inévitable. Les gens parlaient de ça 12 mois par année. Tu sais, là, moi, j'ai pas croisé personne qui m'a parlé des Sénateurs d'Ottawa cet été. Je vous le dis tout de suite. Là, c'est,
Non, là, t'as raison. C'est une rivalité, peut-être, mais pas. C'est même pas proche d'être comme c'était avec le Canadien.
Mais nous autres, on est de la jeune génération, les gars. Vous êtes chanceux. Réalisez-vous aujourd'hui que vous êtes chanceux d'avoir vécu ça.
Alors, puis c'est émotif, là, pour dire une chose,
ben
là.
Oui.
Tu sais, quand je vous dis, c'est pas des blagues, là. Moi, j'ai vu le prof Caron se pogner avec des journalistes de Québec. J'ai vu des journalistes... écoutez, je vais vous raconter une anecdote. C'était à CKVL, je pense, à l'époque, mais je suis pas sûr, ou peut-être c'est cassé. Il y avait une ligne ouverte commune les soirs de match canadien-nordique. Alors, tu avais l'animateur de Québec, qui était Michel Villeneuve, et tu avais l'animateur à Montréal, qui était Pierre Trudel. Faisait l'émission ensemble, c'était une émission à la grandeur du Québec. Mais les deux s'haïssaient tellement que Richard Morancy, qui était directeur des sports, devait s'asseoir entre les deux pendant l'émission sur la passerelle pour éviter que la bataille pogne entre les deux. Je vous le dis, c'était rendu là. Et le Vendredi Saint, là, la ballonne a pété, paf! Et puis là, c'est après qu'on s'est dit, ouais, c'est peut-être allé un peu trop loin, cette histoire-là. Là, ça reste que c'est juste du hockey. Là, c'est, mais... Non, c'est hyper émotif, là. C'est rien. Moi, j'ai connu rien de tel par la suite, là. J'ai jamais vu ça ailleurs. Tu sais, même de toute façon, tu sais, Toronto, non. D'abord, ça se bâtit en séries éliminatoires, les rivalités. Tu sais, tu as eu un moment donné, là, Canadien sénateur, quand Larcelaire s'est fait assommer, là, on pensait peut-être avoir le début de quelque chose, mais ça a tombé flat pas longtemps après. Mais avec les Nordiques, là, c'était. C'était. Même quand les Nordiques n'étaient pas bons, c'est dans Montréal, puis tu sais, c'est émotif pareil.
La victoire des Nordiques contre nous autres, là, en 82, là, dans les playoffs, le fameux but de Dale Hunter, le wrap around, là, ça a parti à patente, là. Ça a vraiment parti à patente. Puis tu sais, vraiment, là, ça a été. Parce que tu sais, on s'attendait jamais à perdre contre les Nordiques. Il n'y a pas personne qui s'attendait à perdre contre les Nordiques. C'était un 3-5. C'était des 3-5. Ouais. Tu sais, la première série, je disais tout à l'heure, les 3-5, la première série, puis ça, là, puis c'était un but en supplémentaire en plus. Là. Puis quand c'est arrivé, là, je te le dis, on était là, là, puis on était sur le banc, puis et c'était comme... C'est impossible, ça se peut pas, là. On s'en va pas en vacances, on vient de se faire éliminer.
On se disait la même affaire,
Gilbert. Ben oui, je le sais, on vient de se faire éliminer par les Nordiques. Ça se peut pas.
Ah non, puis tu sais ce qui est arrivé après ça, tu as eu un ménage au deuxième étage chez le Canadien.
Ouais.
Je pense que c'est deux ou trois gars qui étaient sur la glace du Bugagnan qui ont été échangés.
Brian Englund, Rod Langway, puis Craig Loughlin. Il avait été changé contre Ryan Walter puis Rick Green,
ça a obligé ou le Canadien à faire un virage parce qu'à ce moment-là, les Nordiques avaient une direction francophone, tu sais, Maurice Pidion, Michel Bergeron, c'était à Montréal, t'avais Irving Grondman, c'était plus anglophone un peu. Et là, ça a forcé la direction du Canadien à prendre un virage plus francophone. Ça a obligé les Canadiens à se transformer, cette défaite-là, en séries éliminatoires. Puis comme tu le dis, c'est là que la rivalité a commencé.
Ouais,
parce que le premier match des Nordiques en saison régulière à Montréal, la première fois que les Nordiques se présentent à Montréal, ils ont eu une ovation debout quand ils ont sauté sur le patinoire pour le début du match. C'était pour vous dire à quel point. Et là, le but d'Hunter, ça a tout changé. Là, il était moins cute que les Nordiques, puis on les aimait pas mal moins.
Hey, cette année-là, cet été-là, là, les gars, là, en 82, là, c'est l'année qu'il avait sorti la Molson légère, je sais pas trop. T'en rappelles-tu le slogan, Alain? Pour boire ça, ça prend du cœur. Beaucoup, 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 beaucoup de cœur. On s'est fait écœurer tout l'été, comme de quoi qu'on avait manqué de cœur. On s'est fait planter par les Nordiques. Ça avait été un été de marde, là. Solide.
Ben, sérieusement, là, la rivalité se transposait dans la consommation de bière au Québec.
Ah, ben oui,
c'est ça. Tu choisissais ton bière. Tu pouvais pas prendre, si t'es partisan des Nordiques, tu pouvais pas te promener avec une Molson, c'était impossible.
Non, puis t'avais la bière, t'avais les réseaux de télé, t'avais une guerre de réseaux de télé en plus. C'était la guerre partout, c'était pas compliqué, là, c'était... mais, tu sais, moi, j'ai jamais revécu ça, jamais ailleurs, là, dans... Peu importe le sport, remarque, tu sais, j'ai pas suivi les Red Sox et les Yankees, là, je sais pas comment ça se passe, mais au hockey, là, j'ai jamais vu ça ailleurs.
Même toi, il y avait même pas de réseaux sociaux dans ce temps-là. S'il y avait eu les réseaux sociaux, ça aurait été incroyable. Je te dis, la guerre, ça commençait dans les journaux, là, 4 jours avant, là. Hey, même s'il y avait une game à soir contre, je sais pas moi, Pittsburgh, là, ben le monde s'en coliquait bien raide. C'est la game samedi, la game samedi qui compte. Si on joue contre les Nordiques.
Ouais, là. Mais les joueurs d'hockey et les coachs, ça lit jamais le journal, ça habituellement.
Mais écoute, Jean-Demesse me l'a dit. Il dit, des fois, t'arrivais, là, le Canadien jouait le mardi ou le lundi. Il avait eu congé le dimanche, puis là, le lundi, il y avait le premier entraînement. Il dit, tu voyais tout de suite, là. On avait 2 matchs à jouer, mardi, jeudi, mais les joueurs pensaient juste à la game de samedi contre les Nordiques. Ils pensaient juste à ça. Puis pour vous donner une idée, à l'époque de la confrontation Jacques Lemaire, Michel Bergeron, il y a un match entre les deux clubs, là, dans 3-4 jours, à peu près. Mais là, tout le monde sont après les deux coachs, les journalistes, puis ils veulent avoir des déclarations. Et le Journal de Québec avait fait une manchette. Canadien nordique, la guerre du silence, 7 pages.
La guerre du silence, ça a fait 7 pages. Non, c'est pas grave.
C'est le fun de revoir le Canadien en action ce soir du côté de Québec pour y affronter les Sénateurs d'Ottawa dans ce match préparatoire. Après la pause, Alain, j'ai hâte de t'entendre sur la nouvelle composition des trios. On aime ça voir Bolduc jouer avec Laine et Dak. On aime ça voir Demidov être rétrogradé. On s'en parle dans 2 minutes. Saint-Louis fait des expériences en vue du match de ce soir. Du moins, c'était le cas hier à l'entraînement. Dak et Laine n'ont plus Demidov avec eux, mais plutôt Zachary Bolduc. Et Demidov se retrouve avec Kapanen et Newhook. Aimes-tu les nouvelles combinaisons, Alain?
Écoute, je trouve ça un peu... Tu sais, tu vois que, Martin, le deuxième trio, ça reste une énigme pour Martin Saint-Louis.
Incroyable.
Tu sais, tu serais pas rendu là si tu te posais pas de questions sur Dak puis Laine.
Ouais.
Mais de ce qu'on a vu dans le seul match où ils ont joué ensemble, ça n'a pas été très très concluant, loin de là. Mais les matchs préparatoires, ça sert à ça. J'étais un peu étonné, moi, qu'ils tirent la plug vite de même, là, parce que Dak quand même n'a pas joué depuis le mois de février. T'sais, on peut comprendre peut-être dans son cas que bon, un premier match en plusieurs mois, ça ne donne pas les résultats qu'on espérait, mais T'sais, mais dans le cas de l'aîné, c'est sûr que là, tu as revu le même l'aîné qu'on connaît. Puis là, je pense qu'il va falloir apprendre à vivre avec. Là, c'est comme ça, Patrick l'aîné. Mais tu sais, je vois pas pourquoi Demidov ferait les frais de ça, moi. C'est ça qui est le... Pourquoi tu dis au jeune homme, là, toi, tu vas t'en aller sur la troisième ligne maintenant, là, ouais. Alors que les deux autres...
Moi, j'aurais mis Bolduc, Alain, avec Doc et Demidov. Bolduc à gauche, à l'autre bord, Doc dans le milieu. Tu sais, Bolduc a du speed, puis tu sais, l'aîné, là, ben, ça marche pas, ben, je regrette, là, c'est toi qui vas aller sur le troisième, ou au pire, tu vas aller sur le quatrième, tu joueras sur le power play, là. T'es pas capable de jouer à 5 contre 5.
Puis, tu sais, non, puis l'autre affaire, là, vas-tu demander à Bolduc, parce que là, Dak puis l'aîné, défensivement, là, ça reste que c'est toujours une aventure. Là, vas-tu demander à Bolduc, toi, fais attention, là, essaye de couvrir les deux autres, là. Ben... Pas sûr que c'est sa game, moi, à Bolduc, là. Ça fait que. Mais, tu sais, c'est ça. C'est un match préparatoire, là. Peut-être que ce soir, tu sais, puis comme il a dit hier, les trios, c'est pas éternel non plus. Là.
Non,
ça peut. Ça peut changer, mais. Si tu vois que le deuxième trio là, chez le Canadien, là, a pas ça n'a pas donné les réponses que Martin Saint-Louis attendait. Fait que là, il faut qu'il trouve d'autres choses.
Mais si on prend un pas de recul, là, avec quel paire de coéquipiers Demidov a le plus de chances de se mettre en valeur et de performer? C'est-tu Dak et Laine ou c'est Kapanen et Newhook? C'est-tu avec des gars talentueux ou avec des gars qui travaillent? Elle est là la question. Là.
Ouais. Ben, on va avoir une réponse ce soir. On va le voir. On va le voir. Newhook va travailler.
Ah, ben là, ça, c'est un autre paire de manches, là.
Ben, on va finir par voir ça. C'est juste qu'en début de saison, c'est normal que coach Saint-Louis commence avec sa première ligne telle qu'elle. Mais un jour ou l'autre, non, c'est sûr qu'on va voir Demidov avec Suzuki Caulfield. Tout le monde va vouloir voir ça à un moment donné. On va cheminer vers ça un jour ou l'autre dans la ligne,
ben,
c'est
si
sûr.
Si Slav va bien, il va rester là.
Oui,
exemple.
C'est sûr, mais il peut avoir une blessure bien, qui ouvre la porte et bang, ben,
moi, c'est Bolduc que j'aurais mis à gauche avec Doc puis Laine. Pas Doc puis avec Doc puis Demidov.
Parce que moi, je pense que Demidov, c'est un joueur qui a du talent. Tu sais, j'aimerais ça le voir avec des joueurs qui ont du talent aussi. Tu sais, qu'ils soient capables de. Lui, là, à un moment donné, la passe vient vite. Faut que tu sois toujours prêt parce que, tu sais. Puis l'autre chose, c'est qu'il arrive dans la ligue, lui-là. Là. Ça fait que, tu sais, mêler avec des gars, là, ça va bien marcher parce que, tu sais, il y a des soirs, ça va être plus difficile, puis c'est normal. Pis c'est... Mais, tu sais, je sais pas. Là, tu le mets sur la troisième ligne. Avec des gars qui vont.
Tu sais, Laine, c'est une patate chaude, pas à peu près, Alain. On est pogné, il n'est pas capable de jouer à 5 contre 5, puis sur le powerplay, c'est un spécialiste. Puis si on le rétrograde, si on le fait jouer juste une fois de temps en temps, troisième, quatrième trio, comment est-ce qu'il va réagir? Va-tu faire la baboune? Tu sais, on le sait pas, c'est vraiment une patate chaude.
Exact. Canadiens, Sénateurs et Maple Leafs, cette année, j'ai bien hâte de voir comment les trois équipes vont se détacher dans la division atlantique parce que je pense que ça va être assez serré. Les Leafs ont perdu Marner. Tandis que les Canadiens et les Sénateurs continuent de pousser par en haut. C'est notre question du jour aujourd'hui. Les trois équipes au classement général à la fin de la saison, combien de points vont les séparer au maximum les trois? Est-ce que c'est 3 points ou moins, entre 4 et 6, entre 7 et 9 ou 10 points ou plus? Présentement, sur YouTube, après 1300 votes, à 46%, les gens pensent que ça va être 6 points ou moins qui vont séparer Canadiens, Leafs et Sénateurs, les trois équipes.
Ah, ça va être serré.
Vous attendez que ce soit aussi serré, Alain?
Ben, moi, je pense que ce qui arrive aux Panthers, ça vient complètement changer la donne dans l'Est. T'sais, ils vont être privés de ketchup jusqu'à Noël. Markov reviendra pas cette année. On parle de 7 à 9 mois, là. T'sais, mais ça, au mieux, 6 mois, ça l'amène au mois d'avril, à peu près, là. Fait que, t'sais, moi, je pense que ça vient complètement changer la donne. Je te dirais peut-être ta troisième option, le 7 points, là, peut-être, parce qu'entre le premier puis le troisième, moi, je pense qu'il peut y avoir un 7 à 10 points d'écart entre les deux. Mais j'ai hâte de voir parce que tu as raison, Toronto, Marner est parti. T'sais, le Lightning, moi j'ai hâte de voir parce que c'est un club qui depuis en saison régulière, ça va assez bien pour le Lightning. Mais ils ont eu des éliminations rapides depuis quelques années en séries éliminatoires. Ottawa, Montréal sont sur une montée actuellement là. Alors puis là les Panthers, on voit ce qui vient d'arriver. Ça fait que j'ai hâte de voir, mais c'est sûr qu'il va y avoir une course à mon avis beaucoup plus serrée. Dans l'Est qu'au cours des dernières années. Tu n'auras plus, là, tu sais, pendant longtemps, tu avais les deux Floride, tu avais Toronto, tu avais Boston qui était. Là, je pense que c'est en train de changer le portrait dans l'Est.
Les Sens ont fini 97 l'année passée, quand même, là. Ça fait que 100 points pour eux cette année, c'est
très accessible.
Ben, c'est très accessible. Ouais. Je pense que les Leafs l'année passée ont fini en haut à 110. le Lightning à 103, quelque chose comme ça, puis les Panthers à 98. Fait que c'était serré quand même. Moi, il n'y aura pas énormément de points. Il va y avoir 6-7 points de différence entre les trois premiers, selon moi, puis ça va être ça.
L'année dernière, c'est 17 points qui séparaient les trois équipes. Les Leafs à 108, les Sénateurs à 97 et le Canadien à 91. Est-ce qu'il y a des chances de voir une équipe vraiment distancer les autres? T'sais, Tony, de ta part, verrais-tu les Leafs grandement devant, les Sénateurs grandement devant? Comment tu vois ça?
Ben, moi, j'ai tendance à mettre Ottawa comme la meilleure équipe de la division.
Au complet premier.
Oui, oui, parce que j'ai aimé leur progression toute l'année passée. Après les fêtes, ils ont été très bons. Belle constance. Quand Pinto est revenu, ça a fait une grosse différence. Leur ligne de centre m'apparaît très solide. C'est une équipe qui gagne en expérience. Ils sont solides devant le filet. Quand même une profondeur respectable. Quand tu compares la formation des Sénateurs avec toutes les autres, j'aime leur chance. Honnêtement, ils peuvent lutter pour le sommet de leur division ou s'ils déçoivent, se battre pour les séries.
Parce que t'accroches l'année passée les Sens en début de saison. Ouais. Rappelez-vous, le Travis Green, là, on niaisait, là, on disait l'effet Travis Green et tout ça. Puis finalement, ils ont connu une très très bonne deuxième moitié de saison, les Sénateurs d'Ottawa.
Mais ils ont souvent des mauvais départs, les Sénateurs, depuis quelques années, par exemple. C'est ça qui est leur problème. Ouais. Ils essaient de se rattraper après. Mais s'ils ont un bon début de saison, effectivement, ça pourrait faire la différence.
Moi, je pense que Toronto, la perte de Marner, ça va finir par les rattraper. Ça peut pas faire autrement. Il est trop dur à remplacer pour dire non, on va continuer de gagner. Ça va venir les rattraper quelque part. Ça demeure un club de série, sans l'ombre d'un doute. Ouais. Mais une saison comme ils viennent de connaître sans Marner, moi, je crois pas à ça.
La perte de Marner, la perte de Max Pacioretty, parce qu'on a appris hier qu'il a pris officiellement sa retraite. Question pour vous. De son passage à Montréal, retenez-vous plus du positif ou du négatif à l'endroit de l'ancien capitaine?
Moi, comme joueur de hockey, je retiens du positif. C'est quand même un gars qui a eu des belles saisons. Le personnage n'était peut-être pas le plus sympathique, le plus, mais tu sais, ça a quand même été... Tu sais, il est arrivé à Montréal dans une séquence, là. Tu sais, c'était pas une équipe de premier plan, le Canadien, dans le temps. Là. C'était pas... Mais il y a quand même eu...
Mais t'avais quand même Price, Markov, Subban, Pacioretty. Tu sais, t'avais quand même des éléments pour bâtir, là.
Ouais, mais tu sais, c'était pas une force dans la Ligue nationale comme on peut penser que le Canadien va le devenir dans quelques années, là. Mm-hmm. T'avais pas... Mais c'est un gars qui a eu des succès sur la patinoire, quand même, qui a eu des belles saisons, là. Mais c'est le personnage qui, semble-t-il, était pas très, très... T'as pas le gars le plus sympathique.
Au niveau hockey, moi, je pense que c'était positif. Là. Il y a eu des saisons de 30 buts, 35 buts et plus. Là. Presque 40 buts, même 39, je pense, une saison.
Deux fois, je pense, 38,
exactement. Comme ça. Son implication n'était pas toujours un peu frileux et tout ça, mais en même temps, quand c'était le temps de le mettre dedans, là, il la mettait dedans. Là.
Mais ça alors, mais t'sais, il était un petit peu, il voulait pas jouer avec un...
Je comprends, il était un petit peu particulier, là, mais au niveau des performances, c'était quand même...
Sur la glace, on peut pas y reprocher grand-chose.
Mais ça a-tu été une des grosses erreurs de le nommer capitaine? Parce qu'on dirait qu'à partir de ce moment-là, ça a été une descente pour Max Pacioretty avec le Canadien, puis ça s'est très mal terminé.
Mais tu sais, un capitaine, on a déjà parlé, Tony, de ça, là. Un capitaine, là, il faut que ce soit un gars qui est capable de rassembler sa gang... Même quand ça va mal, puis quand ça va mal pour lui, mais un marqueur comme Pacioretty, là, quand ça va mal, là, hit tabarouette. On l'a vu.
Ça bougonne
pas à peu près. Fait que ça oublie complètement le restant. Ça oublie que, regarde, on a une game à gagner à soir, puis les boys, faut pomper les boys à soir, puis il faut dire les bonnes choses et tout ça. Ils sont plus refermés sur eux-mêmes. C'est marqueur, c'est ça. Puis c'était pas assez.
T'as raison.
T'sais, on a donné le capitaine à Pacioretty, d'après moi, parce que c'est le meilleur scoreur du club, là, puis c'est souvent le problème, l'erreur qu'on fait, là. On donne le capitaine souvent au meilleur joueur.
Mais il va dire, Gilbert, est-ce qu'on le donne à Charity parce qu'on ne voulait pas le donner à Piqué?
Je pense que les deux affirmations pourraient être vraies.
Il y avait un vote dans le temps, hein, on se rappelle. Ouais, c'est vrai.
Exact. Non, je pense que tu touches un bon point, Alain. Hey, Alain, on va se reparler demain même heure.
Salut, boys.
Bon match ce soir. Direct de Québec, Canadien contre Sénateur. Voilà la pause de l'autre côté. Baseball majeur, ça se met en branle. Aujourd'hui, les séries, on en parle avec Mark Griffin.